VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec et Raissa Girondin en direct de la capitale américaine. Vendredi 25 janvier 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, au sommaire ce soir.
En RDC, Vital Kamerhe, nommé directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi.
Au Togo, composition d'un nouveau gouvernement après les élections législatives de décembre dernier.
Au Mali, deux casques bleus ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine dans le centre du pays.
Au Venezuela, deux présidents pour une seule nation, analyse dans nos dossiers du jour.
Selon la constitution du Venezuela, quand il n'y a pas un président démocratiquement élu, le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir.
Dans la minute éco, relance du projet de port sec à Ngaoundéré au Cameroun.
Et ballon rond, Moussa Ouagé suspendu pour 4 matchs dans la page sport.
Mais tout d'abord, le journal.
En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe est nommé directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait soutenu sa candidature à la présidentielle. L'ancien président Joseph Kabila a remis officiellement les clés de la présidence à son successeur Félix Tshisekedi. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je me sens bien, je suis très en forme, a tout de suite rassuré Félix Tshisekedi pour couper court à toutes les spéculations qui alimentent les discussions à Kinshasa et partout au pays après son malaise jeudi pendant son discours d'investiture. L'intérêt des Congolais sera mon principal souci. Je suis conscient d'avoir désormais la responsabilité des millions d'âmes des Congolais, a-t-il poursuivi. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont échangé pendant près de 2 heures ce vendredi avant que le président sortant ne lui cède officiellement ses bureaux. Le président de la République a par ailleurs annoncé la désignation de Vital Kamerhe, son colistier à la présidentielle, comme directeur de son cabinet avant de convoquer une réunion du Conseil supérieur de la défense avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et tous les officiers de l'armée et de la police. Est attendue dans les prochaines heures la démission du Premier ministre Bruno Tshibala et de tout le gouvernement. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Après la passation de pouvoir, le président a répondu aux questions des journalistes.
L'intérêt des Congolais sera mon premier souci.
Vous êtes en pleine forme?
Très en forme.
Papa Lobaki, le peuple d'abord, un message de la population hier, comment vous l'accueillez?
Ah oui, absolument, ça m'a beaucoup touché. Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République.
Vous avez promis de fermer des cachots, certains cachots dans
le pays? Ce sera fait, je vous le confirme. Ce sera fait. J'ai déjà programmé une réunion du Conseil supérieur de sécurité à laquelle je vais adjoindre les agences comme l'ANR, etc., et une de mes premières décisions sera celle-là. Lorsqu'il y a des cas de ce genre, on les transfère simplement à la justice. S'il faut les emprisonner, on les emprisonne à Makala ou ailleurs, mais pas dans des cachots de fortune.
En RDC toujours, l'épidémie d'Ebola a fait 443 morts dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est le dernier bilan du ministère de la Santé qui ajoute que 248 personnes ont été guéries. L'épidémie a été déclarée le 1er août 2018 dans la région de Beni et s'est ensuite propagée vers la province voisine de l'Ituri.
Et pour parler sur le conflit sur la République centrafricaine, pour la première fois depuis le début de la crise centrafricaine en 2012, de hauts responsables du pouvoir à Bangui ont dialogué avec les groupes armés à Khartoum au Soudan. Dans ces discussions à huis clos selon les Nations Unies, les groupes armés ont exposé ce matin aux autorités leurs revendications qui n'ont pas été rendues publiques.
Par ailleurs, Patrice Edouard Gaïssona a comparu ce vendredi devant la Cour pénale internationale. Ex-chef de milice centrafricain, il est soupçonné d'avoir commis ou aidé à commettre des crimes dans l'ouest de la République centrafricaine entre septembre 2013 et décembre 2014. Il a été arrêté en France en décembre, puis extradé à La Haye. Monsieur Ngaïssona, 51 ans, est également président de la Fédération centrafricaine de football.
Explosion d'une mine au Mali. Deux casques bleus ont trouvé la mort. Plusieurs ont été blessés, dont un sérieusement, selon un bilan provisoire. Par ailleurs, à Bamako, un riche commerçant a été abattu à son domicile dans la périphérie de la capitale par des hommes armés non identifiés. Kassim Traoré nous en dit plus.
Il était 6 heures quand un véhicule d'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine aux environs de Douanza dans la région de Mopti. La détonation a créé beaucoup de frayeur chez la population. Deux casques bleus ont trouvé la mort. Plusieurs ont été gravement blessés, dont un sérieusement. Ils ont tous été évacués dans les centres sanitaires de la MINUSMA. La MINUSMA trouve que cette situation n'enlève en rien à sa détermination face à la protection des personnes et de leurs biens, comme le recommande l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. À Bamako, plus précisément dans le quartier de Yirimajo, un commerçant a été assassiné par deux individus armés non identifiés. Il était 20 heures quand deux individus armés au pistolet font éruption chez lui à Yirimajo. Sa femme a pris le sac pour le remettre au bandit. Et c'est là que Oumar aurait dit au malfrat de lui donner le sac afin qu'il puisse prendre un peu d'argent. Cela n'a pas été du goût des bandits qui ont ouvert le feu sur lui. Sachant bien que les populations ne vont pas sortir, les bandits ont fait des tirs de sommation avant de disparaître dans la nature. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, les djihadistes de Boko Haram ont attaqué 3 bases militaires au cours des derniers jours dans le nord-est du pays. 3 soldats ont été tués et des armes ont été pillées d'après des sources civiles et militaires.
Nouveau gouvernement au Togo. Le président fort Gnassingbé a reconduit le premier ministre Selom Kommy Klassou qui avait démissionné le 4 janvier à la suite des élections législatives. Nathalie Barge.
Le nouveau gouvernement comprend 22 membres contre 27 dans l'ancien cabinet. 9 personnalités font leur entrée. 13 ministres conservent leur portefeuille, dont le général Yark Damerham à la sécurité, Robert Dusset aux affaires étrangères et Gilbert Bawara à la fonction publique, tandis que le ministre de la Défense est toujours rattaché à la présidence. Cette nouvelle équipe intervient au lendemain des législatives, boycottées par une coalition de l'opposition. Le scrutin du 20 décembre a été remporté par le parti au pouvoir qui a raflé 59 des 91 sièges de l'Assemblée nationale. Alors que l'Union africaine et la CDAO avaient salué la bonne tenue de ces législatives, la coalition de l'opposition a appelé à une manifestation samedi pour contester ce qu'elle qualifie de coup de force électorale et exiger la libération des manifestants encore en détention.
Côte d'Ivoire, selon l'agence France Presse, Guillaume Soro va démissionner prochainement de son poste de président de l'Assemblée nationale. D'après l'AFP, il va quitter son poste pour ne pas provoquer une crise institutionnelle. Le nouveau parti présidentiel, RHDP, de son côté, a entamé son premier congrès à Abidjan sans la participation de M. Soro. L'objectif est une victoire éclatante en 2020 à l'élection présidentielle, a déclaré le ministre de l'Équipement Amédée Kouakou.
Et au Soudan, le principal dirigeant de l'opposition, Sadek Al-Mahdi, a exprimé son soutien aux manifestations, appelant au départ du président Omar El-Béchir. La police a tiré des gaz lacrymogènes contre des groupes de manifestants qui s'étaient rassemblés à la sortie de la mosquée où s'est exprimé M. Mahdi, selon des témoins.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump doit s'exprimer dans quelques minutes depuis le jardin de la Maison-Blanche à propos du shutdown qui paralyse un quart des administrations fédérales et frappe 800 000 fonctionnaires depuis plus d'un mois. C'est ce qu'a annoncé sa porte-parole.
Et un tribunal en Floride a accepté de remettre en liberté conditionnelle l'ancien conseiller informel et ami de Donald Trump, Roger Stone, contre le versement d'une caution de 250 000 dollars. Roger Stone avait été arrêté à l'aube à son domicile et est inculpé notamment de fausses déclarations et subornation de témoins dans le cadre de l'enquête russe du procureur spécial Robert Mueller.
Le gouvernement américain impose désormais aux migrants sud-africains d'attendre au Mexique toute décision sur leur demande d'asile, une mesure destinée à décourager l'immigration clandestine à la frontière sud. Cette nouvelle politique annoncée le 20 décembre est lancée initialement aujourd'hui au grand poste frontière de Tijuana San Ysidro, au sud de San Diego, en Californie. C'est ce qu'a indiqué un responsable du ministère de la Sécurité et qui a requis l'anonymat.
Washington, qui a reconnu l'opposant Juan Guaido comme président légitime au Venezuela, a demandé qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies ait lieu. Le président sortant Nicolas Maduro a donné aux diplomates américains jusqu'à dimanche pour quitter le pays. Le Mexique s'est déclaré prêt à accueillir Nicolas Maduro et Juan Guaido pour engager un dialogue sur la crise politique qui secoue le pays. Par ailleurs, plus de 350 personnes ont été arrêtées dans le pays. Nous y reviendrons dans notre partie magazine.
Amnesty International et Human Rights Watch ont appelé l'Arabie Saoudite à autoriser une enquête indépendante sur des accusations récentes de torture et de mauvais traitements de militants des droits de l'homme.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Nani Talani.
La Côte d'Ivoire lance un projet pour améliorer la production et la transformation de l'anacarde. D'un coût de 107 milliards de francs CFA, ce projet bénéficie du soutien de la Banque mondiale. Selon Ecofin, l'initiative permettra de construire des usines de transformation dans 4 zones agro-industrielles dans le nord, le centre et l'est du pays. Elle permettra de réhabiliter les infrastructures de stockage et d'améliorer le réseau d'évacuation de la noix de cajou vers les marchés grâce à la rénovation de 2100 km de pistes rurales. Le ministère des Finances camerounais vient de s'engager à relancer le projet de port sec en Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Selon Investir au Cameroun, cette infrastructure ne sera pas alimentée par des espaces d'eau. La région de l'Adamawa, dans la partie septentrionale du pays, est un carrefour commercial entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Le port sec devrait donc avoir des retombées sur l'économie locale et sur toute la chaîne logistique. Les agriculteurs d'Afrique du Sud ont besoin d'une aide de 3 milliards de rands pour lutter contre la sécheresse. Agrissa, une organisation de l'industrie agricole sud-africaine, a décidé de contacter les banques, l'industrie agroalimentaire et le gouvernement pour les aider à lever ces fonds nécessaires à relancer leurs activités. Agrissa révèle aussi que 31 000 emplois et 7 milliards de rands de revenus potentiels ont été perdus depuis janvier 2018 en raison de la sécheresse.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Moussa Wagué, suspendu pour 4 matchs.
Et oui, pas de miracle pour le Sénégalais Moussa Wagué, exclu dimanche dernier après avoir frappé au visage un spectateur lors du match de la réserve du FC Barcelone contre Eria. Le latéral droit a écopé de 4 matchs de suspension. L'ancien joueur du CAS Eupen a dénoncé des insultes racistes pour expliquer son geste dont il s'est excusé, mais l'arbitre n'a pas noté ces éléments dans son rapport. De son côté, le Barça a fait appel de cette sanction concernant le Lion de la Teranga, récemment promu en équipe première.
Deux espérantistes forfaits face à Orlando Pirates.
Le capitaine de l'Espérance de Tunis, Khalil Shammam, et le nouvel attaquant libyen Amdou Al-Ouni observeront 3 semaines de repos d'après l'annonce faite par le club Sang et Or. Les deux joueurs ont contracté des blessures musculaires face au CAB. Le jeune libyen souffre d'une blessure et ne reviendra que dans 3 semaines. Victime d'une lésion, Amdou Al-Ouni est lui au repos. L'Espérance de Tunis affrontera la semaine prochaine les Sud-Africains d'Orlando Pirates pour le compte de la 3e journée de la Ligue africaine des champions.
En Égypte, Osama n'est plus l'entraîneur de Pyramide FC.
L'ancien international égyptien, meilleur buteur à la CAN 98, arrivé en octobre dernier seulement à la tête du club, a été débarqué après le match nul 3-3 face aux Zamalek. Depuis qu'il a pris les rênes de Pyramide FC en provenance d'Al Masri, Hassan n'a pourtant perdu aucun match. En 11 rencontres, il compte 6 victoires et 5 matchs nuls. C'est le 3e entraîneur viré cette saison par Pyramide, après Alberto Valentin et Ricardo Lavolpe. Le club est présentement 2e du championnat avec 39 points en 20 matchs.
Et basketball pour finir, Golden State en mode capitale en NBA.
Oui, en visite la nuit dernière dans la capitale fédérale américaine, Golden State a sorti le grand jeu pour battre Washington 126-118. À Oklahoma City, Rachel Westbrook n'a eu besoin que de 20 minutes de jeu pour s'offrir son 15e triple-double de la saison lors de la victoire de son équipe face à la Nouvelle-Orléans 122-116. Pour les Los Angeles Lakers, le retour de Rajon Rondo, absent depuis le 25 décembre, n'a pas réussi à changer la donne. Ils ont joué des coudes à domicile avec Minnesota pendant 3 périodes avant de craquer 120-105.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriac et Raïssa Girondin. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Le dialogue entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés sous l'égide de l'Union africaine se tient à Khartoum. Ce dialogue fait suite à 7 autres tenues en 5 ans pour mettre fin aux crises à répétition en Centrafrique. Cette dernière réunion aura-t-elle des chances d'aboutir ? Félix Yepassé-Zambrou a recueilli l'avis de Dominique Yondoka, présidente du mouvement Initiative pour une transformation par l'action.
Je pense la solution la plus appropriée pour une sortie de crise dans un État en faillite comme le nôtre, c'est les pourparlers. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce vraiment les gens qui se sont déplacés pour aller parler au nom de ces groupes armés principalement, se sont déplacés pour parler avec sincérité, ou c'est pour des revendications plus ou moins utopiques et qui pourra encore emmener le pays à une nouvelle crise. Donc, sur le premier point, je ne peux que vous dire que nous croisons les doigts, on touche du bois, on souhaite de notre vœu que cela puisse être effectif et que la paix puisse revenir chez nous en République centrafricaine.
Autre question, Monsieur le Président, les groupes armés qui ont fait le déplacement de Khartoum ont certainement dans leur valise des revendications, entre autres celles portant sur l'amnistie. Quel est votre sentiment à cet effet?
Alors, nous avons plus ou moins pris connaissance des revendications de ces groupes armés, le gouvernement étant bien informé de cela. Ce que nous recherchons, nous sommes dans une démarche d'une paix durable en République centrafricaine. Il y a des crimes qui sont imprescriptibles, tels que ceux qui sont condamnés à ceux qui sont frappés d'une sanction, que ce soit internationale, de crimes contre l'humanité et autres, reprendront tôt ou tard de leurs actes. Nous voulons à ce que le pays soit pacifié, afin que chaque centrafricain puisse vaquer à ses occupations. Maintenant, il revient au gouvernement de se prononcer. C'est pas tout le monde qui aura les mêmes jugements. Il y a des gens qui ont commis des crimes graves. Cela, même si notre juridiction n'a point possibilité de les poursuivre aujourd'hui, mais tôt ou tard, ils seront rattrapés devant la justice. Pour moi, si vous demandez notre avis, nous avons élaboré au mois de juillet 2018 une proposition de sortie de crise, demandant même la suspension de certaines chefs de groupe armé, suspension des procédures, j'allais dire, pour faire d'abord la place à la paix, et après la justice en viendra. Mais pour le moment, si on va pour imposer à ce que la justice passe avant la pacification du pays, on est loin du compte.
C'était Dominique Yondoka, président du mouvement de l'Initiative pour une transformation par l'action.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
La 26e édition du FESPACO se déroulera à Ouagadougou du 23 février au 2 mars 2019 et célébrera entre autres 50 ans d'existence du festival. Un cinquantenaire placé sous le signe de la mémoire, de l'identité et de l'économie. Arzuma Compaoré a joint Soma Ardiouma, secrétaire général du FESPACO, pour faire un point à quelques semaines de cette grande fête du cinéma sur le continent africain.
Cette année, nous avons une moisson exceptionnelle, je dirais. On a atteint donc la barre de plus de 1000 films inscrits à plus de réception confondue. Donc, on a véritablement du mal à faire la sélection pour arriver à environ 160 films dans les différentes sections. Au niveau du documentaire que nous avons décidé de valoriser spécialement cette année, je pense qu'on a créé une compétition long métrage pour les films documentaires de création, et ceux qui compétissent à ce niveau ont accès pour la première fois au Grand Prix du Festival des Talents d'Or de Yelenga. Nous avons aussi une place pour la jeunesse, et à ce niveau, donc, on a mis l'accent aussi sur la sélection des films des étudiants des écoles africaines de cinéma. 50 ans du FESPACO, c'est aussi 50 ans de l'histoire du cinéma d'Afrique et de la diaspora. Donc le patrimoine sera mis en valeur. On fera en sorte que les pionniers qui sont encore vivants soient présents. Ceux qui ne sont pas encore vivants, on va faire vivre leur mémoire pendant donc le FESPACO, et on fera en sorte que la jeunesse aussi soit massivement présente.
Alors, on sait que le FESPACO, c'est tout le pays qui s'habille, qui se prépare, comme une jeune fille se prépare, chaque soir pour aller regarder les films. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ce qu'il s'agit de l'organisation qui est très souvent décriée, indexée du doigt?
Au Burkina Faso, en Afrique, sur le continent africain, dans un environnement où l'industrie cinématographique et audiovisuelle est pratiquement inexistant, c'est des grands défis. Mais vous savez, au Burkina, nous savons nous battre. Nous savons nous battre. C'est pourquoi ce festival-là a 50 ans aujourd'hui, parce que le Burkinabé, il ne lâche pas. Donc c'est un combat permanent et nous, nous croyons. C'est pourquoi nous sommes engagés et ça fait 50 ans et nous espérons qu'il y aura 50 autres années avec une meilleure organisation.
Alors, on ne peut pas s'empêcher de penser à la question sécuritaire. Qu'est-ce qui sera fait par rapport à ça?
Le Burkina a organisé beaucoup de manifestations ces dernières années dans ce même contexte-là et les dispositions sont prises, les dispositions vont être prises et tout le pays, comme vous l'avez dit vous-même tantôt, qui est engagé et qui se prépare pour accueillir le monde entier à Ouara, bien pour découvrir le continent africain, pour dialoguer avec l'Afrique.
Voilà, c'était Soma Ardiouma, délégué général du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro reçoit un soutien de taille, celui de l'armée, dans le bras de fer qu'il oppose au président du Parlement. Cette décision de l'armée intervient après la reconnaissance par les États-Unis de Juan Guaido comme président du pays, suscitant une montée de tensions diplomatiques entre Washington et Caracas. Le président Maduro a ordonné le départ de diplomates américains. Alors Donald Trump a-t-il raison de reconnaître le chef de l'opposition comme président du Venezuela? C'est la question qu'Abdourahmane Dia a posée à Brett Bruen, président du Centre de réflexion Global Situation Room.
À mon avis, oui, parce que il faut prendre en compte que Juan Guaido, c'était un représentant élu par le peuple vénézuélien et aussi élu par l'Assemblée nationale pour être le président. Et selon la constitution du Venezuela, quand il n'y a pas un président démocratiquement élu, en absence d'un président démocratiquement élu, le président de l'Assemblée nationale prend le pouvoir.
L'Union européenne aujourd'hui appelle à l'organisation de nouvelles élections avant de reconnaître Juan Guaido. Est-ce que la position des États-Unis n'est pas un peu trop tranchée?
On a en Afrique et aujourd'hui au Venezuela la manque d'une position assez forte, nécessaire en ce qui concerne cette menace à la démocratie. Ce n'est pas le moment pour l'Union européenne à dire on va attendre, on va continuer à parler, on va considérer les deux camps dans le même sens. Non, c'est un moment dans lequel on a vu quelqu'un qui a détruit un pays, qui a détruit économiquement et aussi au niveau de santé, au niveau politique des institutions démocratiques. Et pour dire, il faut échanger, il faut aller aux élections. Et qui va organiser ces élections? C'est le même pouvoir de Maduro qui a manipulé des élections pendant plus de 20 ans. À mon avis, ce n'est pas une politique assez logique.
Et expliquez-nous un peu quelle est l'importance stratégique du Venezuela pour les États-Unis.
Il y en a plusieurs aspects. Tout d'abord, il faut reconnaître que le Venezuela a plus de ressources de pétrole que n'importe quel autre pays dans le monde. Mais aussi, il y en a des autres aspects. Il y en a un aspect d'immigration. Plus d'un million de personnes ont fui du Venezuela dans l'année dernière. Il y a aussi un aspect de sécurité. Le Venezuela a développé des relations assez forte avec non seulement la Chine, la Russie, mais aussi l'Iran, et aussi la Syrie.
C'était Brett Bruen, joint ici à Washington.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, l'impasse budgétaire continue. Le président américain Donald Trump doit s'exprimer dans quelques minutes depuis les jardins de la Maison-Blanche à propos du shutdown. Des centaines de milliers de fonctionnaires ont raté leur deuxième salaire ce vendredi. Le président Trump a déclaré qu'il va accepter un accord permettant de rouvrir, ne serait-ce que temporairement, le gouvernement si de l'argent était réservé au mur. On attend ce qu'il va dire dans quelques minutes. En attendant, on fait le point avec Lionel Gaïma.
Le président Donald Trump a fait cette proposition hier, peu après l'échec au Sénat de deux propositions concurrentes pour mettre fin à l'impasse.
Une des idées suggérées est qu'ils ouvrent le gouvernement, qu'ils prévoient une sorte d'acompte pour le mur, ce qui, je pense, conviendra. En fait, je vois beaucoup les démocrates dire maintenant, les murs sont bons, les murs sont bons. C'est une grande différence avec ce que nous avions il y a deux ou trois semaines.
Seulement au Sénat, il n'y a pas eu assez de démocrates qui ont souscrit au projet républicain intégrant la demande de 5,7 milliards de dollars pour la construction du mur. La mesure n'a pas eu le nombre de votes nécessaires pour passer. Ce fut le premier échec. Dans la foulée, une contre-proposition des démocrates qui prévoyait de financer les agences fédérales concernées jusqu'au 8 février a également échoué. Le démocrate Steny Hoyer accuse les républicains de ne pas avoir travaillé de bonne foi.
We wanna negotiate.
Nous voulons négocier, nous voulons résoudre ce problème, mais nous n'allons pas prétendre que les choses se passent comme d'habitude. Il s'agit du plus long arrêt de l'histoire. Votre parti a toujours voté contre chaque projet de loi que nous avons proposé pour rouvrir le gouvernement.
Près de 800 000 employés fédéraux sont touchés par la fermeture partielle et ceux jugés essentiels sont contraints de travailler sans salaire. Pour survivre, certains s'appuient sur les aides alimentaires ou la générosité de leur communauté. Cette situation est un casse-tête pour les syndicats. Gary Stevenson, ancien organisateur syndical, a suggéré une grève, mais la loi fédérale interdit aux fonctionnaires de participer à un arrêt de travail massif. Les syndicats ont saisi la justice, disant que le travail non rémunéré est une violation des lois du travail et la Constitution américaine. Mais les tribunaux fédéraux eux-mêmes, touchés par le shutdown, ont refusé de s'ingérer dans ce que le ministère de la Justice considère comme un conflit politique entre le Congrès et le président.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
En quoi avoir foi? C'est le pont qui s'élève, le vrai qu'on enterre. On a changé de loi. Le peuple à la rage, on tue ses rêves, ne sait plus en quoi avoir foi. S'il n'y a plus d'espoir, toujours la même chose. Soyez pas surpris si un jour ça explose. Regarde-moi, regarde mon Maliba. Tu pourquoi, mais pourquoi c'est comme ça? Chaque professeur technique, caméléon. Nouvelle religion apporte des millions.
Et vendredi, tout est permis. C'était Amkoulel, featuring Milmo. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, Miss Tienne. À la présentation, Morgane Guyec et Raissa Girondin.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet, voafrique.com, pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.